Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité des 5 grands championnats européens. Je suis Arthur Merle et je suis très content de prendre le relais de Cyril Morin pour cette émission. Petit changement à la présentation, mais pas pour le programme. On va continuer de débriefer ce qui s'est passé dans l'Europe du football ce week-end. Et cette semaine, on va commencer par la Ligue 1 avec Elton Mokolo. Une Ligue 1 dans laquelle l'OM continue de s'éclater. L'OM de Jean-Louis Gasset, en tout cas, qui n'en finit plus de gagner. Avec lui, un Pierre-Emerick Aubameyang toujours plus en forme. Cet OM peut-il filer tout droit vers la Ligue des Champions? On va se poser la question avec Elton. On ira ensuite en Première Ligue, lieu du gros choc du week-end entre Liverpool et Manchester City. Match nul un partout. Qu'est-ce que ça nous indique dans la course pour le titre? On va demander ça à Philippe Auclair. Et puis Philippe, il nous parlera aussi d'Arsenal. Arsenal qui a un 8e de finale retour de Ligue des Champions à négocier contre le FC Porto. Les Gunners vont-ils encore buter sur leur plafond de verre? On va se demander ça avec Philippe. De Ligue des Champions, il sera aussi question en Espagne cette semaine, puisque le Barça et l'Atlético sont engagés en 8e retour avec encore toutes leurs chances de qualification. On va prendre des nouvelles de ces deux clubs avec Anna Caro. L'Italie aussi aura deux représentants en Ligue des Champions, l'Inter et Naples, mais c'est plutôt de Ligue Europa dont on va parler, puisqu'on va s'attarder sur l'AS Rome de Daniele De Rossi, qui revit depuis le départ de José Mourinho. Guillaume Maillard Pacini va nous expliquer pourquoi cette Roma éclabousse la Serie A et l'Europe de son talent depuis quelques semaines. Voilà pour le programme. Le rappel, c'est toujours le même. Tour d'Europe est à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast en tapant Eurosport Football Club. Et les meilleurs moments de l'émission seront à retrouver en vidéo sur le site d'Eurosport.fr. Voilà, le point est fait. C'est parti. On commence ce Tour d'Europe en Ligue 1 et on rejoint notre spécialiste du football français, Elton Mokolo. Salut Elton, j'espère que tu as passé un bon week-end en Ligue 1. On va commencer dans la Ligue des Talents par parler quand même un petit peu du Paris Saint-Germain, accroché par le Stade de Reims ce week-end avec Kylian Mbappé encore sur le banc, Elton.
Salut Arthur, j'espère que tu vas bien. Oui, on attend encore une fois une victoire du PSG au Parc des Princes en 2024 en ce qui concerne la Ligue 1. Ça n'arrive pas, il y a des contre-performances, il y a une série de contre-performances pour le PSG avec trois contre-performances. Et là, ça n'a pas dérogé la règle pour les Parisiens avec ce match contre Reims. Un match nul qui arrive dans un contexte où c'est un match qui est entre un match de Ligue des Champions et le quart de finale de Coupe de France. Donc, il y a eu un parti pris de Luis Enrique, une rotation de grande ampleur, à commencer par les buts avec Keylor Navas, qu'on a ressorti des cartons, on a vu Dembélé qui était remplaçant, et enfin Kylian Mbappé qui était une nouvelle fois remplaçant en ce qui concerne la Ligue 1. Et je ne dirais pas que la rotation a eu un impact, parce que moi j'ai quand même vu une bonne prestation du PSG, mais il manque des buts, et on sait que Kylian Mbappé est le facteur but.
On va parler de l'OM, comme on l'a dit en introduction, mais avant ça, on voulait faire un autre focus sur le maintien, sur ce qui se passe en bas de tableau, parce qu'il y a eu des résultats qui comptent ce week-end, notamment dans des confrontations directes. Elton, est-ce qu'on commence à y voir un peu plus clair dans la hiérarchie, ou en tout cas dans ce qui va possiblement se passer sur la fin de saison, selon toi, tout en bas du classement?
Ah, moi, j'avais dans l'idée que Clermont et Metz semblaient difficiles, mais Metz a eu une victoire très importante contre Clermont. Et donc, par rapport à ça, on a dans l'idée que Clermont, ça va être compliqué. En plus, en interne, il y a quand même l'imbroglio autour de l'attelage Gatien-Bichard. On sait très bien que Bichard va prendre la suite de Gatien qui devait partir en fin de saison. Ouais. Et là, à partir du moment où il y a un impératif, à savoir sauver le club, on a le sentiment que du côté de Clermont, on ne veut pas prendre la décision qui sera inéluctable, se passer de Gatien, par rapport à tout ce qu'il a apporté. C'est vrai que c'est une position club qui est très difficile à avoir parce que Gastien est un monument à l'échelle de Clermont. Et pour autant, il y a quand même un impératif, sauver le club. On a vraiment l'idée que Clermont commence à être vraiment décroché. Par contre, à partir de la 17e place, là, tout est ouvert. C'est-à-dire que même Metz est à 2 points maintenant du barragiste.
On a quand même l'impression que, alors je ne sais pas si c'était encore un sujet pour toi, l'OL et le maintien, mais cette victoire de Lyon à Lorient, on a l'impression que ça sort définitivement l'OL des débats dans la lutte pour le maintien.
On va s'aligner sur la position de Pierre Sage, à savoir, tant que tu n'as pas 35 points du côté de l'Olympique lyonnais, rien n'est à écarter. Mais pour autant, au vu de ce qui a été montré face à Lorient, une victoire vraiment convaincante, et j'insiste là-dessus, après la défaite contre Lens, le fait que l'Olympique lyonnais enchaîne les résultats, hormis encore une fois cette défaite contre Lens, moi j'écarte Lyon, mais maintenant mathématiquement, ce n'est pas fait. Donc c'est pour ça que Pierre Sage est totalement dans son droit de dire que du côté de l'Olympique lyonnais, il faut rester focus sur l'idée d'avoir ce maintien le plus rapidement possible avant d'envisager une fin de saison plus tranquille.
Bon, comme promis, on va évoquer une nouvelle fois, parce qu'on parle beaucoup de l'OM en ce moment, mais on va évoquer une nouvelle fois cet Olympique de Marseille, et plus précisément l'Olympique de Marseille de Jean-Louis Gasset, qui continue de marcher sur l'eau. Cinquième victoire consécutive dimanche soir contre Nantes, 2-0. Elton, ce qui est peut-être différent des premiers matchs sous l'ère Jean-Louis Gasset, c'est que cette fois, l'OM a été mis en difficulté sur la durée dans un match, notamment en seconde période. C'est peut-être ça qui est intéressant quand on analyse la victoire de l'OM de dimanche soir.
C'est une victoire sans éclat, c'est une victoire qui n'a pas été réalisée avec la manière, c'est une victoire qui a été poussive, mais c'est une victoire. Et pour moi, c'est quand même la principale information du côté de l'Olympique de Marseille, parce que c'est un match qui est compliqué, parce que c'est un match entre 2 tours de Coupe d'Europe, à savoir le match aller face à Villarreal et donc le match retour. On sait très bien que ça enchaîne énormément. On est sur la. On, là, on attaque la dernière semaine avant la trêve internationale. Donc autant dire que les organismes commencent à tirer, commencent à être fatigués. L'Olympique de Marseille affronte un candidat déclaré au maintien, Nantes. Bon, même si je n'ai pas compris la compo nantaise, donc il fallait impérativement gagner sans la manière. Et je pense que l'Olympique de Marseille a répondu présent. Et pour moi, c'était quelque chose de très important, cette capacité à gérer sur les deux tableaux, parce que c'est une interrogation qui était légitime. On parle d'un club qui, il y a un mois, n'était pas capable de gagner un match en Ligue 1. Ça, faut pas l'oublier. Et le fait d'avoir cette récurrence, le fait d'être en capacité d'enchaîner, pour moi, c'est la principale information pour l'Olympique de Marseille, en même temps qui se replace pour le sprint final. Un sprint final qui va être excitant et ce qui n'était pas encore une fois gagné il y a un mois.
Tu m'as fait ma transition, Elton, c'est parfait. Je vais encore te demander de te projeter, mais l'OM qui enchaîne, l'OM qui est porté par un Pierre-Emerick Aubameyang absolument exceptionnel ces derniers temps, je crois qu'il en est à 8 buts sur ses 5 derniers matchs, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que cet OM-là, par rapport aussi à la concurrence, file tout droit vers une qualification en Ligue des Champions, ou est-ce qu'il faut se calmer un petit peu en sachant qu'il y a aussi des grosses confrontations qui arrivent?
Aujourd'hui, il y a quand même l'idée de se dire carpe diem pour l'Olympique de Marseille, à savoir que c'est bien d'être replacé dans la perspective du sprint final. Il faut pas oublier qu'il y a un calendrier difficile qui arrive. L'OM a réussi à capitaliser sur un calendrier qui était abordable au cœur du mois de février. Bon, les gens diront, ça reste un championnat et il faut prendre les points, mais toujours est-il que l'Olympique de Marseille l'a fait. Maintenant, vont arriver les fameux matchs à 6 points. Et même au-delà des matchs à 6 points, il y a un classique qui va arriver à l'occasion du prochain match au Vélodrome. Donc tout ça va faire que l'Olympique de Marseille va être attendu sur cette capacité à être performant et à battre des concurrents directs. Tu vas recevoir notamment le l'OGC Nice. Donc autant dire que ça va être compliqué. Et moi, je me dis qu'avec l'engouement qui est généré du côté de l'Olympique de Marseille, de toute façon, c'est toujours pile ou face avec ce club. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une sinistrose, qu'il peut y avoir ambiance déprime, comme il peut y avoir une ambiance euphorie qui peut te porter très très loin. Et le fait d'avoir un Pierre-Emerick Aubameyang qui est très très performant, ses 23 buts de compétition confondus, le fait d'avoir une charnière centrale qui est vraiment à un très haut niveau, un milieu de terrain qui travaille bien, et ben tout ça me fait dire qu'avec la force brute de cet effectif, oui, l'Olympique de Marseille peut rêver un podium. Et pour moi, je dis d'autant plus facilement que moi, je ne voyais absolument pas l'Olympique de Marseille sur le podium. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ont profité de circonstances très favorables, à savoir la chute de Nice qui est en déliquescence totale, Monaco qui a patiné pendant très longtemps, bon, même si ils commencent à enchaîner avec 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Donc l'Olympique de Marseille profite du fait que En haut, ça a patiné, que ça a ralenti, tandis que l'Olympique de Marseille a recommencé à carburer.
Il y a une autre équipe qui carbure peut-être pour terminer, c'est le RC Lens qui va pas mal ces derniers temps. Lens qui prend énormément de points depuis le début de l'année civile et même si on remonte jusqu'à la sixième journée, je crois qu'il n'y a que le PSG qui a pris plus de points. Ça fait partie de tes favoris pour une qualif en Ligue des Champions?
Aujourd'hui, Lens est même un candidat à sa propre succession pour la deuxième place. Ce qui aurait paru fou à la cinquième journée quand Lens avait seulement un point, aujourd'hui c'est réel parce que c'est vrai que depuis la sixième journée, Lens a pris 40, Lens a pris 47 points si je ne dis pas de bêtises. Et donc tout ça fait que aujourd'hui du côté du RC Lens, il y a quand même un grand optimisme. C'est un match très attendu face à Brest. Brest qui a fait un vrai bon match, mais tu as gagné du côté du RC Lens. Tu as souffert. T'as eu un poteau, mais t'as gagné. Et donc, pour moi, c'est la principale nouvelle, cette capacité à être compétitif et à s'offrir un sprint final, où aujourd'hui, on se dit que du côté de Lens, le pire a été évacué très rapidement, il faut le dire. Il reste seulement la Ligue 1, ce qui est une information qui est très importante. Et donc, moi, je me dis que du côté du RC Lens, non seulement la Ligue des Champions est très envisageable à travers les quatre premières places, parce que avec la nouvelle formule, la quatrième place peut être aussi qualificative. Mais en même temps, le podium, voire la deuxième place, puisque tu n'es qu'à 4 points de Brest, est totalement envisageable. Et ça, il faut donner du crédit au RC Lens pour s'être replacé, pour avoir établi une longue série qui te permet de croire à cette deuxième place.
Bon, la Ligue 1 nous régale pas tous les week-ends dans le contenu, mais en termes de suspense, en haut comme en bas, on prend parce qu'on va continuer de se régaler pendant les prochaines semaines. Et évidemment, tu débrieferas ça avec nous, Elton, dès
On n'a
lundi
pas le
prochain.
suspense. On n'a pas le suspense de la première ligue avec
Ouais.
les trois premiers qui se tiennent en un point, mais on a quand même des arguments à faire valoir.
Effectivement, et on va continuer d'analyser ça. Merci beaucoup, Elton, pour ton analyse. Et on te retrouve très vite dans Tour d'Europe. Nous, on va prendre la direction de l'Angleterre. On rejoint notre spécialiste du football anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, on a vécu dimanche le choc tant attendu de Premier League entre Liverpool et Manchester City à Anfield. J'ai envie de dire qu'on n'est pas plus avancé dans la course titre en Angleterre. Le suspense est toujours entier, on ne va pas s'en plaindre. Alors ce qu'on peut peut-être préciser, c'est qu'Aston Villa s'est incliné juste
Oui.
avant, lourdement à domicile contre Tottenham. On savait que c'était un peu une course à trois, mais vraiment, cette fois, c'est définitivement une course à trois.
On est bien d'accord.
Philippe, ma première question, elle est toute simple, et je te refile un peu la patate chaude. Qu'est-ce qu'on retient de ce match? Qu'est-ce qu'on retire de ce choc dans
Oh,
le cadre
mon
de la
Dieu.
course au titre?
Alors d'abord, on retire beaucoup de plaisir.
Ouais.
Parce que, encore une fois, c'était la 30e confrontation entre Pep Guardiola et Jürgen Klopp. Et hélas, la dernière entre le Liverpool de Klopp et le Manchester City de Guardiola, puisque Klopp s'en ira à la fin de la saison. Et quand on voit des spectacles comme celui-là, on ne peut que le regretter. Alors, il y a en fait beaucoup, beaucoup d'enseignements. Parce que c'était un match quand même qui a une physionomie très bizarre. Tu me poses la question au bout de 15 minutes après le coup d'envoi, je te dis, Liverpool a énormément de mal à vivre, à survivre même. Ils sont pris à la gorge, asphyxiés en milieu de terrain. Foden fait des misères à Gomez sur le flanc gauche, etc. On peut continuer comme ça. Et en fait, très honnêtement, Liverpool peut être mené 2-0 à ce moment-là. Il y a deux occasions pour Kevin De Bruyne, la petite louche qui met juste à côté, et puis le tir qui est paré par Kelleher, qui au passage a de nouveau fait un super match pour les Reds. Et puis à côté de ça, tu peux dire aussi, et c'est peut-être ça l'enseignement principal, tu regardes l'équipe de Liverpool au départ. Alors certes, il y a des joueurs qui sont revenus, et on a retrouvé Mo Salah, Dieu soit loué, en seconde période. Mais malgré tout, quand il commence le match, c'est avec le petit Bradley, Kwanzaa, Kelleher, Harvey Elliott, qui ne sont pas nécessairement des joueurs que tu mettrais dans le 11 de départ si jamais tous les joueurs étaient en bonne forme. Mais ça n'a pas eu d'impact. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que malgré les absences et des absences importantes du côté de Liverpool, on les a retrouvés dès la première période. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la différence avec la seconde mi-temps où tout d'un coup tout change, etc. Non, première période également, moi je vois un Liverpool qui est très très entreprenant, qui se fait prendre de manière très naïve sur ce corner tiré bon, très bien par Kevin De Bruyne, Nathan Ake qui bloque McAllister, Darwin qui suit pas John Stones. Et le ballon qui est au premier poteau, bon, une erreur. D'ailleurs, les deux buts, c'est sur des erreurs, si tu es au passage. Hein. C'est souvent comme ça dans des matchs d'un niveau pareil. Mais ensuite, ce que j'ai vu, moi, c'est un Liverpool qui a été franchement mais fantastique. Fantastique dans tous les domaines, sauf celui de la finition. Parce que je pense que Jürgen Klopp et Luis Diaz, qui à côté de ça fait un match admirable,
Je pense que les deux occasions qu'il loupe en l'espace de quoi, de 75 secondes en seconde période, il s'en souviendra longtemps parce que ça pouvait faire la différence, ça n'a pas fait la différence. Et du coup, oui, c'est le statu quo, ou plutôt ça aurait été le statu quo si jamais il n'y avait pas une équipe qui s'appelait Arsenal qui avait gagné très très tard dans son match contre Brentford la veille. Mais cela dit, bon, ce que ça prouve, c'est que on a affaire à deux équipes exceptionnelles. C'est la preuve que Liverpool, même quand il y a des joueurs clés qui manquent, et il y en avait quand même quelques-uns qui n'étaient pas présents sur la feuille de match, est capable de faire ça. Et que ce Manchester City, qu'on voyait absolument inarrêtable, il y a des moments, il a été à la limite de la rupture. Il a été tout près de rompre.
Ça rejoint une remarque qu'on peut se faire cette saison, Philippe, qui est que City, en tout cas personnellement, m'a l'air un petit peu moins dominant dans ces gros chocs dans les hauteurs du tableau en Première Ligue. On en est à deux matchs nuls contre Liverpool, une défaite
Oui.
contre Arsenal, et là je ne
Oui.
parle même pas des deux nuls contre Chelsea, de la défaite contre Tottenham, il y en a d'autres à leur collection cette saison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ces confrontations à City selon toi?
Alors, très bonne question. Je n'ai pas véritablement de réponse dans la mesure où l'opposition, l'adversaire, le type d'adversaire est très différent dans tous les cas de figure que tu as mis. La chose que je dirais, c'est que c'est une équipe qui est beaucoup plus susceptible d'être mise sous pression que c'était peut-être le cas auparavant. Pourquoi exactement? Je crois que Pep Guardiola pourrait peut-être nous donner des éléments de réponse. Peut-être moins dominante en milieu de terrain, peut-être moins agressive également dans la récupération haut dans la moitié de terrain adverse. Moins et là, on l'a vu hein, face à Liverpool, alors que Liverpool les a pris à la gorge à partir de la 15e minute, on va dire quasiment pendant toute la rencontre et surtout en seconde période. Mais ils sont en effet plus susceptibles à des changements de rythme. Et auparavant, on avait l'impression que Manchester City, lorsqu'ils étaient soumis à énormément de pression, avait cette capacité de mettre le pied sur le ballon, de récupérer le ballon très rapidement, première chose. Deuxième chose, de pouvoir mettre le pied sur le ballon et respirer. Retrouver un certain équilibre dans la rencontre. Et là, ça a été le chaos. Et Liverpool, c'est le chaos organisé, c'est Jürgen Klopp, c'est son football. Et à partir du moment où tu peux imposer ce type de football à très haute densité technique et tactique, et physique surtout, à ce moment-là, tu as une chance contre Manchester City, alors que tu ne l'avais peut-être pas nécessairement les autres saisons. Attention, hein. Il faut être à un niveau comme a été Liverpool aujourd'hui, comme avait été Arsenal dans la victoire avec ce but tardif de Martinelli, ou aussi enthousiasmant que Chelsea l'avait été pendant une mi-temps. Donc il faut quand même pas mal d'éléments réunis pour que ce soit le cas. Mais je pense que tu as raison de montrer ça du doigt. C'est une équipe de Manchester City qui ne contrôle pas autant les événements que celles que l'on a connues dans les saisons précédentes, particulièrement face à des adversaires qui sont prêts à prendre des risques, comme Liverpool le fait par nature et par choix, et qui sont prêts également à donner beaucoup, beaucoup d'eux-mêmes sur le plan physique pour presser et récupérer le ballon aussi rapidement et aussi haut que possible. Et à partir de ce moment-là, tu as des chances. Alors que très honnêtement, il y a un mois de ça, quand tu voyais jouer Manchester City en Europe comme en Angleterre, tu te disais, bon, ok, c'est plié, c'est terminé, on n'en parle plus. Là, c'est autre chose. Liverpool, très honnêtement, je pense qu'on est d'accord que sur la physionomie du match, jamais le score devait refléter ce qu'on a vu dans la rencontre, Liverpool devrait l'avoir emporté. Ce qui leur a coûté, c'est des problèmes dans la finition, quelques sauvetages très importants et quelques décisions arbitrales. Au moins une dont j'aimerais parler parce que je ne suis pas certain que, Adrien, qu'il y ait beaucoup de gens qui soient au fait d'une loi du football qui est très, très, très rarement utilisée de nos jours.
Ouais, je crois que tu voulais
Mais.
nous parler de cette action où Jérémy
Ouais.
Doku vient un petit peu s'essuyer les crampons dans le temps additionnel. On est vraiment tout au bout du temps additionnel.
98e, ouais.
Voilà, sur Alexis McAllister. Et je crois que voilà, tu voulais nous faire un petit rappel. Et je vais être très honnête avec nos auditeurs, tu me l'as appris aussi juste avant qu'on tourne cette émission.
Ok, bah, il faut regarder la loi 12, qui est la loi sur l'antijeu et les fautes et les coups francs, directs et indirects. Donc, ce qui se passe, c'est que Jérémy Doku va pour le ballon. Alors, le touche-t-il ou pas? Je pense qu'il le touche hein, un petit peu. Il a un pied très haut, il a un pied à la Nigel De Jong, je dirais, et qui frappe Alice McAllister et le choc est important. Et c'est du jeu, c'est ce qu'on appelle du jeu dangereux. Alors, évidemment, on attribue, la VAR décide. Non, il n'y a pas pénalty parce qu'il touche le ballon. OK. Mais l'arbitre Michael Oliver sur le terrain, et c'est ça que je ne comprends pas, parce que c'est une faute tellement évidente, vraiment, mais d'une évidence absolue, c'est du jeu dangereux. Et la loi 12, c'est lorsque tu as jeu dangereux dans la surface de réparation, tu ne donnes pas un pénalty, tu donnes un coup franc indirect. Tu imagines la scène si Michael Oliver dit coup franc indirect dans la surface, Et il aurait dû le faire, pour moi. À la 99e, je pense qu'on aurait vécu quelques dernières secondes qui auraient été absolument d'anthologie. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais en effet, c'est les coups francs indirects dans la surface. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense qu'il y a beaucoup de puristes, entre guillemets, et de romantiques du foot qui aimeraient en voir davantage parce que c'est le chaos total. C'est génial à regarder. Et là, en l'occurrence, il y avait une occasion en or pour Michael Oliver. Il ne l'a pas saisi. Je lui en veux énormément. Et par contre, la VAR, là, ne peut rien faire là-dessus. Hein, qu'on dise pas, oui, la VAR aurait dû faire ceci, faire cela. La décision, c'est pas de pénalty prise par Michael Oliver sur la pelouse. S'agit-il d'une grossière erreur de la part de l'arbitre? La VAR regarde, il y a contact avec le ballon, il joue le ballon, non. C'est jeu dangereux, ça aurait dû être un coup franc direct. Mais ça, malheureusement, ce sont les limites, ou heureusement, ce sont les limites de la VAR. Tu ne peux pas dire à l'arbitre, ça aurait dû être un coup franc direct, maintenant tu reviens à ça et tu le donnes. C'est pas possible.
Bon, en tout cas, on se
Voilà.
projette d'ores et déjà avec énormément d'envie sur le Manchester City Arsenal qui nous attend le 30 mars prochain. Autre choc
Ouais.
absolument crucial dans cette course pour le titre. On aura le temps d'y revenir dans Tour d'Europe. Par contre, on va toucher un petit mot d'Arsenal aussi parce que
Quand même,
la
oui.
Première Ligue, c'est magnifique. La Ligue des Champions, ça l'est tout autant. Et il y a un match très important qui attend les Gunners. Huitième de finale, retour de Ligue des Champions contre le FC Porto mardi. À l'Emirates Stadium, défaite surprise au match aller 0-1 en toute fin de match. C'est un match qui a l'air parfaitement taillé pour Arsenal parce que cet Emirates actuel en tout cas, est fait pour ce genre de match parce que Arsenal sait tout à fait renverser des matchs sous Mikel Arteta. Et pourtant, il y a cette petite musique qui revient en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions en tout cas, et plus particulièrement en huitième de finale de Ligue des Champions,
Eh oui.
qu'Arsenal a bien du mal à passer. Est-ce que pour toi, il peut y avoir cette barrière psychologique ou est-ce qu'Arsenal a toutes les clés en main pour faire de cette soirée une soirée plutôt tranquille?
Tranquille, elle ne le saura pas. L'Arsenal qu'on a vu à Porto lors du match aller ne ressemble absolument pas à l'Arsenal que nous voyons en Angleterre et même qu'on a vu en Ligue des Champions auparavant dans les phases de poule. C'était une performance bizarre qui aurait pu passer pour une performance dite professionnelle, puisque bon, on échappe au 0-0 sur un petit coup de génie, on va le dire, hein, cette frappe lointaine qui trompe un Raya peut-être un tout petit peu trop avancé. Bon, peu importe, mais en tout cas, bon, un but venu d'ailleurs. Et en l'occurrence, quand on voit, ce n'est pas la première fois au passage qu'Arsenal se retrouve dans une situation un petit peu particulière face à Porto en Ligue des Champions. Je ne sais pas si tu as vu les confrontations précédentes.
Oui.
Généralement, c'est toujours à l'avantage des Gunners que ça se règle, parce qu'on ne verra pas le même Porto et on verra surtout pas le même, on verra pas le même Arsenal. Alors, si on voit l'Arsenal qui a peiné contre Brentford, connaissant les qualités de Porto, c'est certain que ça peut être un petit peu plus nerveux. Mais vu la dynamique qui existe dans ce groupe en ce moment, vu ses capacités offensives, vu que le rythme ne sera pas du tout le même, le match aller s'est joué sur un faux rythme. En fait, Arsenal n'a même pas essayé d'imposer son rythme. Là, ils le feront d'entrée de jeu. Je pense que tu peux déjà parier sur un départ à 1000 à l'heure dès le coup d'envoi et la volonté de tuer le match aussi rapidement que possible. Alors qu'au Portugal, ce n'est pas du tout ce qu'on avait vu. On avait vu une équipe qui jouait, qui n'avait pas la tête qui était sans doute. À qui l'expérience de ce type de match en Ligue des Champions manque, bien évidemment, pour des raisons évidentes, mais qui ne savait pas trop bien sur quel pied danser. Là, ce n'est pas compliqué, il faut qu'il gagne. Donc, je dirais que d'une certaine manière, c'est une phase de. C'est une. Comment dit-on en français? Tu sais, il y a des moments, c'est terrible, ça fait tellement longtemps que je suis en Angleterre. Mais ce sont des circonstances dans lesquelles, à la limite, les circonstances, je dirais presque qu'elles sont favorables à Arsenal. Parce que là, ils n'ont pas le choix de faire autrement. Et très honnêtement, tu compares le niveau des deux équipes, il n'y a pas photo. Alors bon, c'est la Ligue des Champions, c'est un seul match, tout peut se passer. Mais a priori, je ne les vois pas tomber face à Porto. D'ailleurs, quand tu voyais Mikel Arteta après le match contre Brentford, en fait, tu sentais la confiance également qui existe dans le camp des Gunners, parce que bon, ils ont souffert hein, contre Brentford.
Et ils ont été menés.
Non, ils
Non,
n'ont pas été menés.
Brentford est revenu un partout.
Brentford est revenu à un partout. Brentford se crée d'énormes occasions, enfin deux grosses
Oui.
occasions que Aaron Ramsdale sauve après la terrible erreur qui mène au premier but de Wissa. Mais ce n'était pas l'Arsenal qu'on a vu qui marque 5 buts à toutes les équipes qu'il rencontre depuis maintenant, depuis quelques semaines. Hein. Donc je les vois plutôt bien. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je vais leur porter la malchance, la skumoun, etc. Mais non, si jamais on juge les choses de manière, je pense, posée, rationnelle, en prenant un petit peu de recul par rapport aux qualités respectives des deux équipes, aux circonstances dans lesquelles ça se passe, au fait qu'Arsenal doit impérativement l'emporter, qu'au niveau de la disponibilité des joueurs, je pense qu'il aura un effectif
Ouais.
complet parmi lequel choisir. C'est-à-dire que Gabriel Martinelli, qui a cette petite coupure au pied, devrait être de retour. Gabriel Jesus est là. Bukayo Saka, Martin Odegaard, Kai Havertz
Monte en
qui
puissance.
ressemble qui monte en puissance à chaque match. Je te dis, ça fait quand même beaucoup pour une équipe de Porto. Quels les arguments? Mais qui franchement ne nous a pas montré énormément de choses lors du match aller, qui puissent nous faire croire qu'ils peuvent passer des. Alors, ça serait un véritable exploit, en tout cas, pour le club portugais.
Bon, on s'attend en tout cas à un siège d'Arsenal sur le but du FC Porto, ça c'est
Oui,
très clair.
absolument.
On a assez hâte de voir ce match retour qui s'annonce bouillant. Merci beaucoup en tout cas Philippe pour cette analyse. On te retrouve très rapidement dans Tour d'Europe et nous,
Absolument.
on va filer analyser le week-end des autres championnats européens. On enchaîne avec la Liga et avec notre spécialiste du football espagnol, Anna Caro. Salut Anna, j'espère que tu as passé un bon week-end de football. En Liga, avant de parler de Ligue des Champions, du Barça, de l'Atlético, est-ce qu'il y a une image qui a retenu ton attention dans le week-end?
Alors, c'est une image qui n'a pas forcément retenu mon attention, en tout cas celle de la presse espagnole, parce qu'une fois de plus, Vinicius a eu des gestes, bah, on va dire, pas très licites dans une partie de football contre le Celta de Vigo, c'était hier soir. Il s'en est pris à un joueur du Celta, il lui a encore mis une main au niveau du torse pour le pousser, ce qui aurait pu lui valoir un carton rouge, sauf qu'il a écopé, entre guillemets, que d'un carton jaune, et vu que ça fait écho à ce qui s'était passé contre Leipzig en Ligue des Champions, évidemment la presse, et surtout la presse catalane, note que bah, Vinicius ne serait pas arbitré comme les autres, et c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent en fait depuis l'histoire à Valence il y a un peu plus d'un an
Oui.
maintenant. Le fait que Vinicius a tendance à s'emporter, parfois à sortir de ses matchs vis-à-vis du public adverse ou donc de ses adversaires sur le terrain, et qu'il écope pas forcément du carton dont il devrait écoper. Alors il y en a certains côté catalan qui disent que c'est le madridismo, le fait que le Real Madrid soit tout le temps défendu par l'arbitrage. D'autres qui disent qu'en gros c'est compliqué de sanctionner Vinicius dans la mesure où il est un peu cette figure quand même de l'antiracisme et
Oui.
qu'il ne faudrait pas basculer du mauvais côté. Donc c'est assez compliqué. Je pense que même les arbitres eux-mêmes ont du mal à arbitrer
Ouais.
Vinicius parce que en plus il a ce côté provocateur. Et il faut savoir aussi doser quelle est la limite entre la provocation et ce qui va au-delà des règles du football. Et c'est vrai que là, encore une fois, bah, si on avait un joueur, je pense, peut-être si ça avait été un joueur avec un autre maillot ou que si ça n'avait pas été Vinicius, qui aurait vraisemblablement écopé d'un carton rouge, surtout dans un monde où il y a la VAR, en fait, la VAR serait revenue sur cette situation-là. Et là, c'était pas le cas. Et le Celta, au final, perd 3-0. En faisant deux énormes erreurs de leur part. Donc, c'est difficile de s'en prendre à l'arbitrage là-dessus, mais on peut imaginer que dans un cas où le score est beaucoup plus serré, et que, bah, comme par exemple quand c'est Leipzig, c'est Vinicius qui marque le but, ça commence à peser derrière.
Effectivement, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de parler de l'arbitrage autour du Real Madrid cette saison. Du Real, on va passer au Barça. Le Barça qui avait ouvert ce week-end de Liga avec une très courte victoire. Un but à zéro contre Majorque vendredi. Un but de Lamine Yamal qui a sauvé son équipe. Il a été décisif plusieurs fois cette saison. C'est pas la première fois qu'un jeune sauve le Barça cette saison et c'est pas le seul jeune dont on a envie de parler, j'ai l'impression.
Alors là, c'est le jeune qui fait la une partout. Samedi matin, il était en une de tous les journaux catalans et même un peu côté madrilène, ce qui est suffisamment rare quand même pour être souligné. Parce qu'en plus, il y a Marca qui a avancé dès le lendemain que le PSG voulait faire de Lamine Yamal son remplaçant de
Ouais.
Kylian Mbappé. Bon, ce qui s'est avéré faux, hein. Au final, du côté catalan, on a nié cette rumeur-là. Mais c'est pour montrer un peu l'ampleur qu'a pris Lamine Yamal depuis le début de saison, parce que lui, il avait été lancé fin de saison passée. Mais voilà, cette saison, il est déjà beaucoup plus fort physiquement. Et aussi beaucoup plus efficace, beaucoup plus clinique. Il a beaucoup moins de déchets dans son jeu parce que c'est un joueur qui aime beaucoup dribbler, etc. Mais là, la frappe qu'il met contre Mallorca, elle est limpide,
Ouais,
c'est
magnifique.
incroyable. Et il y a toujours cette question de se dire, bon, en fait, quel est l'équilibre entre avoir ces jeunes-là du Barça qui sont issus de la Masia, donc c'est super, c'est ce que veulent les socios qui portent l'équipe, mais aussi de se dire bah, attention parce qu'il a quand même que 16 ans. Donc il ne faudrait pas non plus qu'il soit trop fatigué. Surtout qu'en fait, lui, Lamine Yamal, c'est un peu la tête d'affiche de cette Masia qui réussit. Mais si on regarde derrière, il n'y a pas Okou Bersi dans la défense centrale qui enchaîne les matchs alors qu'il a que 17 ans. Et quand on sait l'expérience que demande le poste de défenseur central, c'est très très impressionnant. D'ailleurs, Lewandowski a dit à la fin du match qu'il n'avait jamais vu un jeune aussi à l'aise, balle au pied, dans ses relances, etc. Et d'ailleurs, il y a des relances qu'il fait contre Mallorca qui sont exceptionnelles. Mais c'est assez compliqué parce que bah, y a des contre-exemples quand même au Barça, parce que bah, Gavi, là, il s'est fait les croiser, parce qu'il est enchaîné très vite beaucoup de matchs. Pedri, il est encore en rechute. À peu près pour la même raison, parce qu'on se rappelle qu'il avait enchaîné Euro et JO l'année de son explosion. Et là, la sélection espagnole se pose la question aussi de faire enchaîner Lamine Yamal, l'Euro, les JO, et donc ça pose bah, cette question de gestion des jeunes.
Qu'est-ce que, on a l'impression que c'est pas, évidemment, c'est pas la première fois qu'on parle de l'impact des jeunes au Barça, mais d'habitude, j'ai l'impression que c'est plus pour mettre en avant la qualité de la Masia. Là, c'est peut-être que mon analyse. J'ai l'impression que ça vient dire autre chose de ce Barça qui, par les joueurs qui seraient censés être ses cadres, eh bien, n'est pas si performant que ça. On a l'impression qu'on s'ennuie un peu devant le Barça et que, du coup, on parle un peu moins des Blaugrana cette saison.
On s'ennuie un peu, oui, ça c'est certain, et c'est d'ailleurs pour ça que ça gagne que 1-0 contre Mallorca. Alors faut pas oublier, Mallorca c'est une équipe qui est très dure à jouer défensivement, mais enfin, globalement c'est une équipe qui prend pas des manitas toutes les semaines. Mais c'est sûr que quand on parle essentiellement des jeunes et qu'on parle, par exemple, que la presse catalane fait CA1 sur Marc Guiou quand il marque son but contre l'Athletic, bah, ça dit aussi que tous les cadres avant que lui rentre à la 75e, bah, personne n'a fait le travail. Et c'est le cas pour Lewandowski beaucoup cette saison devant, mais c'est le cas aussi comme pour d'autres comme Joao Félix, qui était quand même très attendu et qui ne répondent pas aux attentes. Et les joueurs dont parlait toute la presse vendredi soir après le match contre Mallorca, c'est donc Pau Cubarsí, 17 ans, c'est Lamine Yamal et c'est Vitor Roque, 19 ans, qui est arrivé du Brésil cet hiver. Donc c'est dire que il manque un peu d'enthousiasme autour de cette équipe du Barça et on est un peu obligé de se créer des hypes un peu autour de ces joueurs qui arrivent, soit de la Masia, parce que par exemple, c'est pareil, il y avait Hector Font, qui est un latéral qui est arrivé, qui est monté plusieurs fois et qui a à chaque fois bien performé aussi. Et en fait, c'est de ces joueurs-là finalement qu'on parle et pas forcément du reste et pas forcément aussi des lacunes de l'équipe. Et ce qui était flagrant aussi, c'est quand le Barça a fait match nul contre l'Athletic Club la semaine passée, c'était presque normal finalement. C'était le Barça a fait match nul, voilà, y avait pas forcément de débat sur le fait que bah, le Barça était quand même attendu pour gagner, surtout que Girona n'avait pas forcément fait le travail, pouvait grappiller des points, repasser devant, etc. au classement. Et finalement, non, c'est
On
un
avait
peu.
presque l'impression qu'il gérait le match nul à la fin du match
Exactement.
pour l'avoir
Et
vu, ouais.
d'ailleurs, Xavi était assez frustré de cette fin de match. Mais voilà, c'est pour dire le Barça, maintenant, on va plus se tourner vers des individualités, des jeunes. Il faut dire aussi la Masia, ça fait vendre dans la presse
Bien
parce
sûr.
que y a énormément de socios évidemment à Barcelone qui sont très contents de voir que enfin on a le retour de la Masia parce que c'est ce qui a manqué pendant des années sous Bartomeu. Et puis bah presque on se contente de ça finalement et ça fait reposer énormément de poids sur ces jeunes qui ne sont même pas majeurs hein, et qui pour la plupart n'ont pas de contrat professionnel. Là, Pau Cubarsí par exemple, il n'a pas de contrat avec l'équipe première et bah, se pose la question aujourd'hui de quel contrat lui donner, quelle clause. Il est mineur donc il n'a pas le droit de signer un certain contrat. Enfin voilà. Et donc ça va être du feuilletonnage que va utiliser la presse et pour peut-être un peu masquer les lacunes du jeu du Barça.
Il y a une autre équipe qui a des lacunes en ce moment, c'est l'Atlético Madrid. Ça va pas très fort pour les Colchoneros qui ont beaucoup de mal à gagner ces dernières semaines. Alors, est-ce qu'on lit ça ou pas à travers l'absence d'Antoine Griezmann? Je ne sais pas, c'est peut-être toi qui vas me le dire, mais avant d'aborder ce huitième retour contre l'Inter Milan, défaite 1-0 à l'aller, je le rappelle, est-ce qu'il y a de l'espoir dans les rangs de l'Atlético qui affronte ce qui se fait possiblement de mieux en Europe avec City cette saison, avec un retard d'un but. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un espoir de voir cette situation être renversée?
Alors, il y a de l'espoir parce que, surtout côté des supporters des Colchoneros, il y a un espoir quasiment inébranlable dans cette équipe. Donc, même quand ils avaient perdu le match aller contre l'Atlético en Coupe du Roi, Tout le public comment, du Civitas maintenant,
Ouais.
Metropolitano, y croyait. Donc il y a de l'espoir côté supporters parce que c'est que 1-0 et que c'est déjà été possible pour l'Atleti de renverser ce genre de match. Ça va se jouer dans un stade bouillant parce que les ambiances de Ligue des Champions au Metropolitano, c'est pas loin d'être des meilleures ambiances d'Espagne, donc c'est vraiment, ça va être exceptionnel. Il y a toujours cette question de savoir si Griezmann sera là ou pas.
Tout à fait.
L'Atleti sort d'une performance décevante contre Cadiz, mais c'était à l'extérieur. Cette saison, l'Atleti n'y arrive pas à l'extérieur, c'est pas nouveau, ils l'ont pas découvert là, ils l'ont pas pris comme à main son père juste avant un match décisif. C'est pas une surprise en fait, c'est les supporters évidemment en ont marre hein, de voir
Ouais.
que leur équipe en dehors de chez elle n'y arrive pas. Mais pour autant, ça reste, enfin mentalement, c'est pas un choc quoi pour le groupe. Et je pense que le groupe va réussir à basculer très vite dans ce truc. Presque irrationnel de vouloir battre à tout prix l'Inter. Est-ce que Griezmann sera là? Il y a énormément d'intox autour de ça. Griezmann, si il est apte, il jouera et c'est même pratiquement sûr qu'il sera titulaire. Alors il jouera quoi? 60 minutes, pas plus. Mais Griezmann, à chaque fois qu'il est revenu de blessure, il a presque toujours été bon. Hein. Il n'y a que quand il est revenu début de saison où il a mis un peu de temps à revenir, à avoir un déclic, etc. Mais sinon, vraiment, globalement, quand il revient de blessure, il est assez bon. Le staff médical de l'Atleti, en tout cas, s'est bien relancé ses cadres. Ils ont du mal à les faire durer, mais c'est autre chose. Et dans les absents, côté Atleti, pour l'instant, on a juste Pablo Barrios qui est malade, Jiménez qui est blessé, mais ça, Diego Simeone le sait depuis longtemps, donc il a pu anticiper. Juste savoir si Barrios sera là. S'il est juste malade, je pense qu'il va prendre quelques cachets et il sera de retour pour ce match-là.
Bon, on rappelle qu'on enregistre lundi matin, donc pour l'instant, comme tu le disais, le flou est total autour de la participation ou non d'Antoine Griezmann à ce huitième retour. Est-ce que selon toi, l'Atlético a un visage extrêmement différent avec ou sans Antoine Griezmann? La question est peut-être bête, mais est-ce que la réponse est plus fine que ça?
Alors, elle a un visage différent, oui, mais je trouve que du coup, l'impact d'Antoine Griezmann pèse moins dans les matchs à l'extérieur. Parce que même avec Antoine Griezmann, l'Atlético perdait ses matchs à l'extérieur.
D'accord.
Et c'est vrai qu'Antoine Griezmann, lui, il a ce truc aussi de l'équipe d'être transcendé quand il joue à domicile et d'être bien meilleur. Par contre, c'est vrai qu'on l'a vu sur le match contre Cadiz et qu'on a vu sur les autres matchs où Antoine Griezmann n'était pas là. Antoine Griezmann, quand il manque quelque chose à l'équipe, il est très intelligent et il va vite le déceler. Donc, s'il voit par exemple qu'il n'y a pas assez d'apport au milieu de terrain, il va descendre de lui-même pour créer le surnombre. S'il voit qu'il y a un manque de lien entre Morata devant et le milieu, c'est pareil, il va faire les allers-retours, même si on l'a vu contre le Real Madrid en Coupe du Roi. S'il fallait presque faire piston pour débloquer la situation, il allait à ce poste-là. Et c'est vrai que cette polyvalence qu'a Antoine Griezmann, à part peut-être Marcos Llorente, mais qui est quand même loin du registre créatif de ce que peut être
Ouais.
Antoine Griezmann, il y a peu de joueurs dans l'effectif qui l'ont. Et c'est vrai que le rôle d'Antoine Griezmann contre l'Inter va être vraiment décisif. Et si il peut être là, ça risque de changer le visage de l'équipe. Et en plus, il y a ce côté âme quand même, parce que finalement, Antoine Griezmann, c'est un peu l'âme de cette équipe aussi, parce que Coquet fait une saison pas excellente.
Ouais.
Et il y a besoin d'avoir un cadre en forme. Et jusque-là, c'était Antoine Griezmann. Et là, maintenant, il manque Antoine Griezmann. Yann Oblak fait bien son travail dans les buts. Mais bon, pour autant, lui, il peut pas forcément apporter sur le terrain.
Effectivement. On va suivre évidemment avec attention toutes les infos infirmerie autour d'Antoine Griezmann d'ici à ce match qui est quand même très attendu. Effectivement, ça sera une ambiance bouillante. On a hâte de voir ce qui se passera du côté de Madrid mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Merci Anna pour ton analyse. On se retrouve très vite dans Tour d'Europe et nous, on va filer du côté de la Serie A. On termine ce tour d'Europe avec la Serie A et on rejoint notre spécialiste du football italien, Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume, avant de se pencher sur les sujets que j'évoquais en introduction, on va revenir sur une image très forte du week-end, un coup de tête au sens propre, si je ne m'abuse, Guillaume.
Salut Arthur, oui. Alors un coup de tête assez improbable parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de scène, même en Italie où il se passe beaucoup de choses généralement les week-ends. Mais c'est l'entraîneur de Lecce, Roberto D'Aversa, qui à la fin du match passe à l'AS Vérone dans une espèce d'échauffourée et rentrer sur la pelouse et a tenté, oui, et a même mis un coup de tête à Thomas Henry, l'attaquant de l'AS Vérone. Donc un entraîneur qui met un coup de tête à un attaquant, c'est assez rare quand même sur un terrain de foot. Résultat, Arthur, il y a une réunion qui aura lieu ce lundi du côté de Lecce entre les dirigeants du club et l'entraîneur Roberto D'Aversa. Et probablement, alors voilà, on le saura dans les prochaines heures, mais il devrait être licencié tant pour les résultats qui ne sont pas bons, donc on va dire que c'était un peu dans l'air. Mais le fait est que le coup de tête qu'il a mis à l'attaquant de l'Hellas Vérone, on va dire que ça a quasiment acté son départ. Mais voilà, c'était une scène déplorable et improbable qu'on a vu ce week-end en Italie sur la pelouse de Lecce.
Bon, a priori, pas de coup de tête, pas de bagarre pour l'Inter et pour Naples ce week-end. Peut-être un petit mot sur ces deux équipes qui vont jouer leur destin européen cette semaine. On le rappelle, huitième de retour à jouer pour Naples sur la pelouse du Barça, un partout à l'aller. Et puis l'Inter qui s'était imposé à l'aller contre l'Atlético qui se déplace à Madrid pour le retour. Comment vont ces deux équipes avant d'aborder ces huitièmes retours?
Eh bien, écoute, l'Inter, on en avait parlé avec Cyril il y a quelques semaines, rouleau compresseur, que des victoires 2024. Voilà, énormément de points d'avance sur le Dauphin qui est l'AC Milan, hein. C'est un enseignement du week-end, mais l'AC Milan est passé devant la Juve à la deuxième place, mais l'Inter voilà, et s'envole vers le titre. Et voilà, je ne vois pas honnêtement comment l'Atlético, même à domicile, voilà, on sait que Griezmann est incertain, mais l'Inter en 2024 et même en fin 2023 il y a vraiment un rouleau compresseur. Donc on va dire que la tendance quand même, notamment après le match aller, la victoire 1-0, fait que l'Inter quand même est favorite pour ce huitième retour, notamment au vu de la forme du moment. Côté Naples, Arthur, écoute, match nul contre le Torino vendredi soir. Voilà, ça va un peu mieux depuis que l'entraîneur a de nouveau changé après Rudy Garcia, après Mazzarri. C'est Calzone qui est arrivé, ça va un peu mieux. Et voilà, c'est quand même, ça reste quand même sur les montagnes russes. On a quand même un Gvicha Gvaratskhelia qui revient en forme, Osimhen qui est en forme aussi. Donc, pour le coup, on voit le Barça en face. On sent que les débats sont probablement plus équilibrés entre Naples et le Barça contre l'Inter Atlético. Donc, Naples a un coup à jouer. Et face au Barça, ce sera le match de la saison pour Naples. Parce que éliminer la Coupe d'Italie, en championnat, c'est très compliqué. Donc là, ils vont jouer leur bateau contre le Barça.
L'actualité en Italie, Guillaume, ça va être la Ligue des Champions cette semaine, mais aussi la Ligue Europa avec l'AS Rome qui va négocier son huitième retour contre Brighton après la grosse victoire à l'aller 4-0. Victoire impressionnante et ça va nous permettre de mettre un petit peu de lumière sur un homme, Daniele De Rossi, qui avait remplacé José Mourinho le 16 janvier. Alors, si on lit la fiche statistique, il y a une seule défaite depuis l'arrivée de Rossi sur le banc de la Roma. C'était contre l'Inter, donc ça, ouais. Ça va comme défaite. Est-ce que dans le contenu et dans ce que la Roma dégage, le changement est aussi important, Guillaume? Explique-nous un petit peu comment ça se passe.
Ouais. Alors, la première chose à dire, c'est quand même le changement de communication autour de la Roma, parce que José Mourinho, tu le connais. Il était toujours dans l'attaque, il attaquait ses joueurs, ouais. Il attaquait ses dirigeants, il défendait toujours sa cause. De Rossi a totalement changé ça. De Rossi défend ses joueurs, il défend le club, il n'a pas peur de dire les choses, mais c'est toujours dans le bon sens, toujours en faveur de son équipe. Et tu as des joueurs quand même qui reviennent au niveau comme par hasard depuis le départ de Mourinho, notamment je pense au capitaine Lorenzo Pellegrini qui vraiment a retrouvé son niveau depuis que De Rossi est là. Parce qu'on a quand même une bouffée d'air frais et on avait quand même l'impression, et même si Mourinho à Rome reste encore intouchable aujourd'hui hein, sur les supporters de la Roma à Rome, Mourinho voilà, aura fait quand même des grandes choses. Mais pour moi, voilà, le changement était nécessaire et je trouve vraiment que Mourinho était devenu un peu le poison de la Roma et avec De Rossi, on voit l'antidote. C'est-à-dire que De Rossi, vraiment, il a appris quelque chose de nouveau, notamment comme je disais dans la com pour le vestiaire. Il y a toujours un mot doux pour ses joueurs. Il peut aussi les mettre au mur parce qu'il dit bah, « Avec l'effectif que j'ai, on doit viser la quatrième place, synonyme de qualification Ligue des Champions. » Alors que Mourinho disait « Non, mais moi, j'ai une équipe, entre guillemets, alors il ne l'a pas dit comme ça, mais j'ai une équipe bancale qui, en gros, ne peut pas viser la C1 parce que je n'ai pas les armes nécessaires. » Il a attaqué frontalement ses joueurs Mourinho pendant très longtemps. Donc, on a vraiment deux différences notoires. Et tu l'as dit, les statistiques, ce n'est pas tout. Mais quand on voit qu'en 11 matchs, De Rossi a fait 8 victoires, 2 nuls, 1 défaite face à l'Inter, on va en parler, qui est vraiment sur sa lancée. Voilà, ça en dit long. Et face à la Fiorentina dimanche soir, la Roma a été menée et ils ont été rechercher les ressources nécessaires mentales pour égaliser à 95e. C'est aussi ça la Roma de Rossi, c'est qu'il y a des ressources mentales et tu peux aller chercher des résultats même dans le traditionnel.
Alors tu l'as dit, De Rossi parle publiquement en bien de ses joueurs, il n'hésite pas à le faire, il l'a beaucoup fait non, notamment après le match contre Brighton. Il y a un joueur sur lequel on a envie de s'attarder peut-être un peu plus, c'est Paulo Dybala. Est-ce qu'il y a une différence chez l'Argentin entre José Mourinho et Daniele De Rossi? Ou est-ce qu'il continue simplement à réaliser une saison dans la lignée de ce qu'il faisait depuis le début?
Bah, tu sais, Arthur Dybala, c'est un peu le joueur phare de la Roma. Donc, c'est vrai qu'avec Mourinho, quand même, il y avait quand même une bonne relation
Ouais.
entre Mourinho et Dybala. Donc, ce n'est pas le changement le plus éclatant. On voit chez beaucoup de joueurs, notamment Smalling, qui est revenu aussi. Puis, on voit des blessés qui reviennent plus facilement qu'avec Mourinho. Mourinho, quand même, avait créé, au-delà des résultats qui n'étaient pas bons, quand même, avec Mourinho, factuellement parlant, il y avait quand même un sentiment un peu d'angoisse. Il y avait toujours des déclarations après les matchs qui étaient très dures. Donc, voilà, c'est pas Dybala, on va dire, l'exemple le plus éclatant, mais De Rossi a apporté des certitudes sur le terrain. Il n'hésite pas aussi à assumer ses fautes. Hein. Par exemple, face à la Fiorentina dimanche soir, il a dit bah, j'ai utilisé une défense à 3, peut-être que ce n'était pas la meilleure solution. Et après, j'ai repris la défense à 4. Donc, tu vois, il assume aussi ses fautes que ne faisait pas du tout Mourinho avant, pendant ce mandat. Donc, on ne peut pas dire que Mourinho a fait tout en mal. Mais sur la fin, quand même, le changement était nécessaire. C'est vrai que De Rossi, dans le moment que connaissait la Roma, tu le sais, c'est une ancienne bandiera, c'est un ancien immense joueur de la Roma, De Rossi. Il connaît par cœur le club, il connaît par cœur l'environnement. Et c'est vrai que le fait de choisir à ce moment-là la saison, bah, ça se révèle quand même le bon. Et si la Roma continue comme ça en Serie A, la Ligue des Champions est possible, notamment si la cinquième place devient qualificative. Et comme tu l'as rappelé, contre Brighton au match aller, on parle quand même de Brighton, quand même, qui est pas alors, un favori de Ligue Europa, on va dire un outsider. C'est Brighton de De Zerbi. Et en mettre 4 à l'aller de manière aussi éclatante, voilà, ça prouve que la Roma et que De Rossi vraiment voilà, a ramené ce club. Alors, je n'irai pas dans les hauteurs du classement en Italie, mais l'a ramené là où il mérite d'être pour l'instant. Donc, voilà, la différence vraiment est éclatante entre la Roma de Mourinho et la Roma de De Rossi. Maintenant, on va voir jusqu'où ils peuvent aller en Ligue Europa. Ça reste quand même un objectif, je ne dirais pas prioritaire, mais il y a 2 ans, la Roma a gagné la conférence avec Mourinho. L'année dernière, ils sont arrivés en finale de Ligue Europa quand même. Cette année, quand tu gagnes 4 ans contre Brighton en 8e de finale et que tu vas aller probablement en quart de finale, voilà, tu as le droit de rêver quand même cette compétition.
Bon, tu nous as mis l'eau à la bouche, Guillaume, et ils nous ont mis l'eau à la bouche à l'aller contre Brighton. Donc, on va suivre avec attention cette équipe de Daniele De Rossi sur la fin de saison. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans Tour d'Europe avec toi. Merci, Guillaume, pour ton analyse. À très vite.
Merci Arthur.
Tour d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On le rappelle une nouvelle fois, l'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Pour ça, il vous suffit de taper Eurosport Football Club dans votre barre de recherche. Vous y retrouverez également le FC Stream Team tous les vendredis. Comme d'habitude, les meilleurs moments de l'émission seront à retrouver en vidéo sur le site d'Eurosport.fr. On remercie Adrien Io, Sébastien Petit à la réalisation et puis Quentin Guichard au graphisme. Je vous souhaite une très bonne semaine de football, mais pas que, parce que sur les antennes et le site d'Eurosport.fr, vous aurez aussi du tennis avec la deuxième semaine d'Indian Wells. Voilà, très belle semaine de sport et de football à toutes et à tous.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.